France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 12 France.
Voici les résultats du scrutin. Votants 548, exprimés 527, majorité 264, pour 275, contre 252. L'Assemblée nationale a adopté.
Nous dénonçons l'écologie punitive qui se fait en fait au détriment des Français les plus modestes. Donc c'est une vraie victoire pour le Rassemblement national et aujourd'hui c'est quelque part un grand jour pour la République.
Partie du bloc central ne l'a pas voté et l'autre l'a voté avec l'extrême droite dans un grand moment trumpiste où c'est le concours Lépine, une simplification qui en réalité révèle le scepticisme climatique d'une partie de l'hémicycle.
Aujourd'hui on acte la fin de l'écologie dans le mandat, enfin dans les mandats d'Emmanuel Macron.
Je ne crois pas que ce soit une défaite de la Macronie, je crois que c'est surtout une défaite pour la santé publique, c'est une défaite pour l'écologie, c'est une défaite pour les gens.
C'était ce mardi à l'Assemblée nationale. Le texte de loi sur la simplification est adopté avec 275 voix pour et 252 contre. Un texte qui acte la fin du ZAN, le zéro artificialisation nette, et des ZFE, les zones à faibles émissions. ZFE, trois lettres et objets politiques explosifs, synonyme aussi d'instrumentalisation politique régulière et de bataille entre Rassemblement national, Parti socialiste, écologiste et Bloc central, comme nous venons de l'entendre. Depuis quelques années, la mise en œuvre de cette territoires dont les véhicules les plus âgés et les plus polluants sont exclus, cristallisent à la fois les tensions autour des enjeux de transition écologique et la défiance d'une partie de la population des métropoles qui s'estime mise au ban des villes-centres. Mais au-delà du rapport éternellement conflictuel entre centre et périphérie, comment lire ce besoin de bagnole? Pourquoi nos vieilles carlingues sont-elles un pivot de nos destinées? Dans les territoires ruraux ou périurbains, la voiture est symbole de liberté, d'émancipation, surtout chez les jeunes adultes, souvent titulaires du permis à 17 ans et un jour désormais. Mais elle devient vite un objet indispensable pour tout, les courses, le travail, la santé, les loisirs. En dehors des grandes villes, la vie sans caisse est une chimère et cela a un prix. Celui du carburant, des réparations, de l'assurance, et tout flambe quand la mobilité est un droit fondamental. Comment en garantir l'accès de chacun et partout au sommaire de 12 France, du centre Val-de-Loire à la Somme, une voiture à tout prix. Venez, je vous emmène. Bonsoir Guillaume Florençon.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneur social, vice-président de Mobin France, un réseau qui fédère les acteurs territoriaux de la mobilité dite inclusive. Vous allez nous raconter en quoi cela consiste. Vous êtes administrateur de la Fédération nationale Solidar Auto et directeur de Solidar Auto 37 et 45. Donc c'est Loiret et Indre-et-Loire. Si j'ai encore quelques vieilles idées de mes cours sur les départements, c'est bien ça?
Exactement. C'est
tout à fait. Bienvenue à vous. Et en duplex avec nous, Éric Le Breton. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Rennes 2. Vous avez signé Mobilité, la fin du rêve, collection Les penseurs sociaux, penseurs P-A-N-S-E-U-R, aux éditions Apogée. Ça a paru en 2019. Merci d'être avec nous. On entendait à l'instant voilà ce texte de loi sur la simplification avec ces ZFE qui étaient au cœur de ce projet. Un texte qui a été adopté. Alors je rappelle qu'une CMP, une commission mixte paritaire, doit se tenir et que le Conseil constitutionnel sera également saisi certainement sur le risque d'un cavalier législatif, c'est-à-dire que la possibilité que ce texte sur les, enfin que cette partie sur les ZFE soit rejetée au titre de la distance justement avec cette idée de simplification. Mais Éric Le Breton, peut-être commencer avec vous. Pourquoi cette ZFE est absolument un objet politique?
Écoutez, elle le devient, en tout cas. Elle le devient pour plusieurs raisons. Je pense qu'à travers ça se joue tout un ensemble de choses, et peut-être pour commencer, le rapport entre les citadins, ceux qui vivent en ville, qui profitent de la ville et qui aujourd'hui ont des profils socio-économiques très particuliers et très très différents de ceux qui vivent hors de la ville. dans les territoires périurbains et dans les territoires ruraux. Et les ZFE, c'est un mur pour les voitures, ou ce sera un mur pour les voitures. Et je pense que c'est aussi derrière ça un mur pour les personnes, un mur pour les modes de vie, un mur pour les modes d'exister dans notre société d'aujourd'hui. C'est ça qui se joue, me semble-t-il, ou qui pourrait se jouer, parce que il ne faut pas hâter les choses et on est encore dans une situation un petit peu intermédiaire. Ce qui est bien, me semble-t-il, c'est que à travers cet objet compliqué, c'est que peut-être, là encore, je suis très prudent, peut-être que la mobilité quotidienne va enfin devenir un véritable objet politique dans notre société. Il serait vraiment temps, parce que la voiture façonne nos modes de vie depuis un siècle. On vend toujours plus de voitures en France.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Oui, tout à fait. Depuis une douzaine d'années maintenant, on vend 1% de voitures en plus tous les ans. On est sur un marché national qui tourne autour de 40 millions. Il y a des évaluations un petit peu différentes. 39 millions pour certains, 42 pour d'autres. On va dire 40 millions. Et donc tous les ans, il y a 400 000 nouvelles voitures qui arrivent sur le marché.
Et
les ménages continuent. Oui, qui sont immatriculés, et les ménages continuent de s'équiper toujours plus de voitures. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais la part, par exemple, des ménages qui sont multimotorisés, deux voitures ou trois voitures dans le ménage, voire plus, continue de grimper, en particulier et tout spécialement dans les territoires ruraux.
Et justement, Guillaume Florençon, en tirant le fil que vient de poser Éric Le Breton sur ce rapport justement à la voiture, on parle des ZFE, de ce mur qui est en train de s'ériger entre les citadins et les périurbains ou les ruraux, comme une forme de fracture entre deux France, pétrie d'a priori l'un sur l'autre, enfin l'une sur l'autre. Et tout ceci a aussi explosé lors du mouvement des Gilets jaunes, souvenons-nous, novembre 2018, à la faveur d'une taxe sur le carburant, justement, qui a été aussi le symbole de la voiture comme objet politique.
Tout à fait. Je pense que le principal problème, c'est que une grande majorité des Français, ça a été dit juste à l'instant, utilisent beaucoup la voiture et que de fait, c'est leur quotidien. Donc, dès qu'on va toucher à cet objet-là, ça va pouvoir cristalliser des peurs, des envies. Et je pense qu'on renonce, en fait, à la complexité de la question. Je trouve que la ZFE illustre bien le sujet. La ZFE, à la base, c'était pour améliorer la qualité de l'air. Tout est louable là-dedans. La vraie question, c'est comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait moins de voitures polluantes. On peut effectivement interdire brusquement à toutes les voitures les plus vieilles de rentrer, et je pense que c'est ce qui a cristallisé politiquement le problème, notamment dans certaines agglomérations où ça n'a pas été progressif, alors que ça aurait dû l'être. Nous, les bénéficiaires qu'on rencontre, n'opposent pas fin du monde et fin du mois. C'est le même combat, en fait. Si on leur demande s'ils veulent encore rouler dans un vieux diesel ou s'ils préféreraient pas avoir une voiture électrique, la réponse, elle est toute vue. La question, c'est en fait comment on les aide à avoir cette nouvelle voiture, nouvelle génération.
Ce qu'ils vous disent, en fait, c'est finalement, nous, on n'est pas contre. La question, c'est l'accompagnement social. Donc, on est face à des politiques pensées par le haut, vers le bas, avec justement ce que vous disiez à l'instant, une réalité du quotidien qui est un impensé parfois, et donc une compréhension d'une forme d'injustice peut-être dans cette mise en œuvre.
Oui, je pense que c'est effectivement ça. En tout cas, le sentiment, c'est bien un sentiment d'injustice. Et moi, je pense que, vous l'avez dit, c'est un impensé politique. On a renoncé à jongler entre court terme et long terme. À court terme, il y a encore des gens qui ne peuvent se passer de la voiture. Et donc, à court terme, on ne peut pas l'interdire de but en blanc. Par contre, est-ce qu'à long terme, c'est souhaitable que tout le monde conduise des voitures individuelles? Non. Je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. C'est une aberration écologique, c'est un gaspillage aussi économique. Enfin, je veux dire, on pourrait passer notre temps à autre chose qu'à construire des voitures individuelles.
Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des gens, quand ils sont interrogés, disent bien que s'ils pouvaient se débarrasser de la voiture, ils le feraient. Éric Le Breton, pourquoi c'est un tel impensé, justement, ce rapport à la mobilité, selon vous ?
parce que le discours politique reste toujours focalisé, on le voit tous les jours, sur le monde du travail. Voilà. On a une société française qui est façonnée par le marxisme, pour le meilleur et pour le pire, mais la question sociale, la question du travail est absolument centrale, et alors que nos élus sont presque tous des élus locaux, les questions locales, d'espace, d'environnement de vie n'ont jamais réussi à prendre dans notre culture politique.
Pour Éric Le Breton, pardon de vous couper, mais quel est le lien que vous faites entre la question du travail et la question de la mobilité? Pourquoi est-ce que ce serait antinomique?
C'est antinomique, ça ne l'est pas évidemment, mais dans les faits, ça l'est, et c'est traité comme ça. Quand on parle du travail, on parle des retraites, on met les syndicats sur le devant de la scène, on parle de ce qui se passe dans les entreprises, on parle des conditions de travail, on parle des niveaux de vie, on parle des revenus, on parle de tout un ensemble de choses qui sont construites autour du monde de l'entreprise et du monde du travail. C'est très intéressant, bien sûr, mais ça laisse complètement de côté les environnements de vie dans lesquels les gens vivent, la question du déplacement, particulièrement la question du déplacement de la famille, des questions absolument centrales pour nous qui disent que la mobilité est aujourd'hui le premier élément à prendre en compte dans le rapport à la formation, dans le rapport au travail, dans le rapport à la santé, dans le rapport à la culture. Voilà, donc là il faudrait en quelque sorte tordre un petit peu le regard pour entrer par des questions d'espace et prendre un petit peu de champ avec les vieilles questions très traditionnelles qui sont débattues depuis les années 50, 60 et 70 dans lesquelles la mobilité n'existait pas.
Ce que j'entends, et ça j'aimerais bien vous entendre en réaction Guillaume Fleurançon, c'est que finalement on est sur des logiques encore sectorielles en termes de politique publique, alors que c'est ce que vient nous dire Éric Le Breton, si on doit penser accès à l'emploi, si on doit penser accès à la santé, à l'éducation, aux loisirs, etc., on ne peut pas ne pas penser mobilité, qui est le premier des droits fondamentaux, qui permet d'accéder à d'autres droits, et c'est ça qu'on ne sait pas penser, c'est ce premier étage.
Alors oui, complètement. D'ailleurs, je vais vous le traduire très concrètement avec la vie d'une bénéficiaire. La première chose qu'elle fait de sa journée, c'est emmener ses enfants à l'école. Ça n'a absolument rien à voir avec le travail. Et ensuite, elle va au travail. Donc effectivement, déjà la mobilité a déjà servi de champ. Je pense qu'il y a un enfermement, effectivement, aujourd'hui, autour du prisme du travail. Un enfermement qui, à mon sens, reflète aussi le fonctionnement de notre société, c'est que c'est un prisme économique. Emmener quelqu'un au travail, ou faire en sorte qu'il puisse aller au travail, c'est un moyen d'avoir un salaire, d'y prélever des cotisations, de pouvoir payer des impôts. Par contre, rendre quelqu'un mobile pour qu'il puisse aller voir sa grand-mère ou qu'il puisse faire ci ou ça...
Là, on est quoi? On est dans une vision productiviste, selon vous?
Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait productiviste. On reparlait des élus locaux. Une société qui travaille, c'est, en tout cas pour tout le monde, considérée comme une société qui va bien. Je pense que c'est un peu réducteur.
Alors justement, plongeons-nous dans cette réalité de ceux qui ont des soucis de mobilité, direction Péronne, une commune de 7200 habitants dans l'est de la Somme, a un taux de pauvreté de 25%, 20% de taux de chômage en 2021. C'est un territoire très rural et là-bas, un garage solidaire y existe depuis 2 ans. Il a été créé par l'association Saint-Jean, initialement une association d'aide à domicile qui existe depuis 40 ans et qui a depuis plusieurs années développé une plateforme mobilité. Reportage, Lise Verbeck.
Saint-Jean Mobilité, Garage Solidaire, bonjour. Oui, bonjour monsieur.
Là, vous avez mon bureau et après, on arrive sur la partie atelier. Messieurs, rebonjour.
Alors, Corné Romuald, je suis responsable des services mobilité de l'association Saint-Jean de Péronne. Le garage solidaire, ça peut ressembler à un garage classique au premier abord. Hein, ça a les mêmes tâches qu'un garage classique. La seule chose, c'est qu'il y a un accompagnement derrière qui explique le terme solidaire. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir proposer des réparations à moindre coût. Donc suivant la situation des personnes qui franchissent la porte, le tarif est appliqué en fonction du quotient familial ou de l'avis d'imposition. Et l'idée, voilà, c'est de rendre ces réparations qui peuvent être très coûteuses, plus abordables.
Vous vous appelez comment?
Alors moi, je m'appelle Hospital Lydia, voilà.
Vous habitez à Péronne ?
Péronne, oui.
Qu'est-ce que vous faites ici ?
Eh bien, justement, j'étais venu pour voir pour mon devis de ma voiture, pour mes roues.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce garage ?
Il n'est pas trop cher. On peut faire des demandes d'aide qu'on peut avoir pour réparer la voiture. Soit que c'est remboursable par petite mensualité. Ça dépend des revenus, en fait, et puis des personnes, dans les situations. Donc,
c'est la liste des documents que vous devez fournir ?
Oui, voilà. Donc, il faut les loyers, l'eau, l'électricité. Si on paye des impôts, on ramène les impôts qu'on paye. Si on n'en paye pas, on ne ramène pas. L'électricité, l'eau, le gaz, tout, en fait, les assurances, tout. Tout ce qu'on paye.
Et ça vous revient à combien par rapport à ce que vous auriez payé dans un garage classique ?
Ah bah moins cher, ça c'est sûr. Parce qu'avec la demande d'aide, en fait, moi là, pour mes roues, j'en ai à peu près pour 400 euros, puisqu'ils doivent me rajouter un rétro, que je ne sais pas encore le prix, je le saurai après. Mais au total, de ma poche, je vais donner peut-être du, je sais pas moi, entre 50 et 100 euros, on va dire.
Est-ce que pour vous, c'est essentiel d'avoir une voiture ?
Ah bien sûr, parce que sans voiture, en fait, on ne peut pas trouver vraiment de travail, tout ça, parce qu'il faut se déplacer. Il y a des fois, on ne peut pas trouver de travail dans notre ville. Et les bus, tout ça, c'est pas... Voilà, les horaires, ils sont pas, des fois, adaptés aux horaires de travail.
C'est ici que se passent toutes les réparations. Donc, avec tout un équipement pour bien travailler, on a deux ponts, donc un mobile, un fixe. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour bien travailler.
On est dans un territoire qui est très rural, où on a des villages qui sont assez espacés les uns des autres. On a peu de structures avec des pistes cyclables, etc. Et on n'a pas forcément beaucoup d'accès au niveau ferroviaire parce que sur Péronne, il n'y a pas de gare. C'est vrai qu'on est très dépendant de la voiture.
Depuis 2 ans que le garage solidaire est ouvert, est-ce que vous avez beaucoup de clients ?
Le garage tourne bien, ce qui montre en tout cas qu'il y avait un réel enjeu en tout cas au niveau des réparations.
Merci.
Ça va, monsieur
Petit ? Ça va. Alors, Luc Fetti, président de l'association Saint-Jean, et également président du garage solidaire de Péronne, qui a maintenant 2 années d'ouverture. Et c'est un atelier qui fonctionne avec 5 personnes. C'est un atelier ACI, avec des retours à l'emploi, qui sont bien sûr suivis par un chef d'atelier, un encadrant technique, qui lui est diplômé. Il n'y a aucun véhicule qui ne sort sans que l'encadrant ait mis son cachet et sa signature, bien sûr, parce que c'est important pour la sécurité.
Parce que les 5 personnes qui travaillent et là, n'ont pas du tout de formation.
Alors, ce sont toutes des personnes qui ont une appétence au départ à la mécanique et qui veulent faire ce métier dans leur vie. Et d'ailleurs, il faut, depuis 2 ans, nous avons eu ce qu'on appelle des sorties positives. Nous avons eu 5 sorties positives au total. Et ces sorties positives ont bien sûr été remplacées par d'autres personnes qui ont aussi une appétence à la mécanique, etc.
Pourquoi avoir créé ce garage solidaire ?
C'est parce que c'était un réel besoin. C'était la continuité et surtout la finalité de la mobilité, parce qu'on s'apercevait que les gens avaient besoin, ils étaient bloqués là, il fallait leur trouver un véhicule ou même pour nos auxiliaires de vie de l'association Saint-Jean, nous faisons les réparations, etc., à des tarifs forcément moindres.
Et comment vous arrivez à vous y retrouver, vous, financièrement ?
L'équilibre d'un garage solidaire est quand même très, très pointu. Il faut y faire très, très attention. On y arrive parce que nos personnes sont financées en partie par l'État. Les personnes, les 5 personnes que nous avons, sont financées en partie par l'État, parce que sinon, on ne pourrait pas. Et la personne à l'accueil est un contrat aidé, d'accord ? Sinon, ce ne serait pas possible.
Bye-bye. Bonne fin de journée.
Guillaume Florençon, vous avez ouvert ce jeudi 5 juin Solido Roto 45, le deuxième garage solidaire de votre structure. J'imagine que ça résonne, ce qu'on vient d'entendre.
Alors oui, il y a plein de choses qui résonnent, à la fois la voix de la bénéficiaire qui parle à la fois d'aménagement du territoire, d'accès à l'emploi, de transport en commun, ce qui traduit bien ce qu'on se disait tout à l'heure, la complexité de la question de la mobilité inclusive. J'entends aussi un autre sujet qui me fait écho, qui est le modèle économique des garages. Il y a vraiment, en France, et donc en l'occurrence les 2 qu'on a ouverts et chez Solidar Auto, on est sur un modèle économique assez différent de celui de ce reportage-là. Ce garage-là a deux objets sociaux en fait. Il est là à la fois pour former des gens au métier de la mécanique et réussir à les insérer, et en même temps rendre des gens mobiles. Deux objets sociaux très louables, très difficiles à concilier. Nous, on a fait le choix effectivement de ne pas faire d'insertion, parce que former les gens à la mécanique, ça prend du temps. Et si on veut à l'inverse aider en volume très important des gens à se déplacer, il nous faut des mécaniciens professionnels. Nous, on a plutôt fait ce choix-là. Donc,
n'empêche voilà. Pas que vous êtes particulièrement soutenu par la région Centre-Val de Loire, le principal financeur, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, les collectivités, les associations dont le Secours catholique, l'État.
Alors oui ouais. Et non. En fait, on est. Donc moi, je suis arrivé en 2018 pour créer le premier garage solidaire à Tours, Solidaire Auto 37. Et en fait, je viens du monde de la finance, donc à la base pas du tout du social. Et je pense que ça traduit là aussi un changement au sein de l'écosystème de la mobilité inclusive. Nous, l'idée, c'était d'avoir un garage qui marche sans subvention. Et en fait, c'est le cas. Donc, on a besoin de subventions d'investissement pour créer ces garages-là. Mais après, on a travaillé un modèle qui est plutôt autour du don de voiture. Un peu comme Emmaüs, en fait. Si on nous donne une voiture, c'est une matière première qui est gratuite, avec laquelle on va pouvoir tirer de la valeur et qui va nous permettre de faire fonctionner le garage sans subvention. Ce qui change quand même, du coup, beaucoup l'approche déjà politique, puisque quand on vient créer un outil sociétal dans un écosystème, dans une agglomération, en annonçant qu'on ne demandera pas de subvention, ça change un peu la donne. Et après aussi, ça change aussi la donne vis-à-vis de la profession automobile, qui peut avoir une mauvaise vue des garages solidaires. Et effectivement, il y a quelques garages solidaires qui ont été défaillants. Pour l'immense majorité qui fait très bien le boulot, qui paye un peu les pots cassés. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que on a quand même besoin, effectivement, de voir émerger dans des territoires des structures qui sont plus solides,
et qui peuvent véritablement accompagner les bénéficiaires.
Exactement.
Est-ce qu'il y a un profil type des bénéficiaires ?
Ah bah oui, le même profil que celui qu'on retrouve dans la précarité, une femme seule avec des enfants, avec deux enfants à charge. Qui gagne un peu moins d'un SMIC, quoi. C'est à peu près ça. Donc, et encore, je suis gentil sur le SMIC.
Ouais, Éric Le Breton, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre ? On entend l'isolement des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'offrir ces mobilités, ces réparations. Vous parlez de situation d'insularité.
Oui, insularité, parce que ce sont des gens qui vivent comme s'ils étaient pris dans les limites du Nil, au milieu de la mer, n'ayant pas la possibilité de franchir l'île avec différents dispositifs, différentes aides de mobilité. Mais je réagis très rapidement à ce qu'on vient d'entendre sur les garages solidaires. Moi aussi, ce sont bien sûr des dispositifs très utiles, très importants, d'autant plus que au fil des 30 dernières années, tout ce qui existait en matière de mobilité dans le grand périurbain et le rural a été démonté, a été démantelé. Les lignes de car et 30% à peu près de l'offre TER. Donc les garages solidaires, ils se présentaient il y a 30 ans pour les tout premiers, 20 ans pour les autres, un peu banal, un peu aussi comme des oasis, plutôt dans des territoires où on ne trouvait pas grand-chose d'autre. Aujourd'hui, il y a deux choses qui vont dans le bon sens aussi les concernant, c'est qu'ils prennent place dans des réseaux d'autres dispositifs d'aide à la mobilité qui sont construits sur tous les territoires, grands périurbains et ruraux. Donc, pendant longtemps, le garage solidaire, il était tout seul. Et puis aujourd'hui, il est en lien sur le même territoire, à quelques dizaines de kilomètres, avec quelqu'un qui fait de la location de voitures, avec une association qui fait de la location de voitures, de la location de scooters. Et puis un petit peu plus loin, il y a une structure qui fait de la préparation au permis de conduire dans le cadre d'une auto-école sociale, etc., etc. Et puis un autre opérateur qui loue des voitures à très très peu cher. Donc le garage solitaire, il contribue à cet ensemble qui s'est considérablement enrichi.
Mais ce que j'entends, mais je vous coupe, Éric Le Breton. Ce que j'entends, c'est que c'est aussi, même s'il vient s'inscrire dans un écosystème qui est plus large et qui pense les mobilités au gré en fait de la situation individuelle des gens qui les accompagnent, j'entends quand même que c'est le symptôme en fait de de la fin des alternatives. Quand vous nous dites les cars régionaux, enfin les cars scolaires, les TER, c'est parce que la bagnole est redevenue finalement indispensable, bien plus qu'elle ne pouvait l'être il y a encore quelques années, qu'il a fallu se doter encore plus de ce maillage.
Tout à fait, la voiture est de plus en plus indispensable, tout particulièrement sur le rural. Les mobilités rurales ont un profil très très particulier. Il n'y a rien d'autre. Et les garages solidaires sont très fragiles, très utiles, mais très fragiles, très insuffisants et souvent surfragilisés par le modèle économique qui vient d'être évoqué. Donc il y a comme ça quelques linéaments d'aide, mais ça reste très très insuffisant.
Ça reste insuffisant, Guillaume Florençon. On est donc sur quelque chose, on est sur quoi ? Un emplâtre sur une jambe de bois ?
Oui, tout à fait. Moi, je dis souvent que, effectivement, on colle des pansements.
Je rappelle, selon le baromètre des mobilités du quotidien réalisé par WeMove et la Fondation pour la Nature et l'Homme, ce sont des chiffres de 2022, on estime que 13,3 millions de Français sont en situation de précarité en termes de mobilité. Et là-dedans, il faut compter justement ce rapport à la voiture et la difficulté à y accéder ou à la réparer.
Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment reprendre, concernant ce que disait Eric, l'idée de savoir bouger et pouvoir bouger, qui sont quand même deux notions différentes et qui viennent interroger aussi, du coup, comment on a organisé le territoire. Savoir bouger, c'est savoir où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on peut utiliser.
Et ça, c'est pas évident.
Non, c'est loin d'être évident.
Ah bon ?
Il y a des problèmes d'illettrisme, il peut y avoir des problèmes cognitifs, des problèmes... divers et variés.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, bouger, être mobile, ça s'apprend.
Ah oui, tout à fait, ça s'apprend, oui, clairement. Vous l'avez appris sans vous en être rendu compte. Vous avez peut-être fait du vélo toute votre adolescence et en fait, vous avez ancré qu'il y avait une priorité à droite. C'est pas, si vous avez jamais fait de vélo, c'est comme la natation. Bah, vous allez arriver sur la route le jour de votre permis, ça va être un enfer d'apprendre à conduire. Donc, savoir bouger, c'est vraiment un sujet. Ce qui, d'ailleurs, dans l'écosystème, nous, on appelle ça le conseil en mobilité, qui est la première brique. Et ensuite, il y a les briques du pouvoir bouger, qui sont les solutions matérielles qu'on va pouvoir apporter, donc le garage, la location, tout ce qui a été évoqué juste avant, il y a aussi du transport micro-collectif, solidaire. Et je pense que ce qui est important, c'est que du coup, toutes ces solutions, c'est le palliatif à l'absence des transports en commun. Pourquoi les transports en commun ont disparu ? Parce qu'ils sont tombés dans une logique mercantiliste et tout à fait compréhensible dans notre société capitaliste. Il faut qu'il y ait du rendement et de la rentabilité. Un transport en commun, il faut qu'il soit utilisé par de nombreuses personnes. Et quand les zones rurales se vident, nécessairement, les transports en commun deviennent de moins en moins rentables et laissent de fait des territoires sans solution. C'est là que du coup arrivent les solutions de mobilité inclusive, solidaire, on peut les appeler un peu comme on veut. Sauf qu'elles arrivent parce que des habitants de territoires mis face au mur s'organisent pour leur mobilité de tous les jours. Dans les faits, par contre, politiquement, il n'y a aucune prise en considération de cet aspect-là.
Ça veut dire qu'Éric Le Breton, égard à ce que Guillaume Florençon vient de nous dire, cette question de la mobilité, c'est véritablement la fracture sociale, territoriale, économique, éducative ?
Oui, tout à fait. Nous sommes quelques-uns nombreux maintenant à en être convaincus, mais à nouveau, je me retourne vers la classe politique, et c'est quelque chose qui n'a pas infusé encore de son côté. Et je trouve que le sort qui a été infligé aux Gilets jaunes est très très parlant. Les Gilets jaunes, ça a été un mouvement social d'une vigueur, et d'une violence aussi, d'une vigueur vraiment extraordinaire. Le mouvement social le plus marqué en France depuis mai 68. Il s'est construit, ce mouvement social, sur la question de la mobilité, territoire peu dense, et des difficultés de mobilité. Et on l'a oublié. On l'a oublié très très rapidement, on l'a laissé de côté et le problème n'est absolument pas encore traité
on a quand même,
au niveau.
Mais Éric Le Breton, souvenez-vous, le président de la République en décembre 2018 prend la parole, met quasi 17 milliards d'euros sur la table. Est-ce qu'on peut dire que véritablement il n'y a pas eu de réponse apportée ?
Écoutez, je ne sais pas dans quoi il a mis 17 milliards d'euros. Je travaille toujours et tous les jours sur le terrain, sur ces questions de mobilité, en particulier sur les questions d'apprentissage de la mobilité. Et je peux vous assurer que les opérateurs de terrain n'ont jamais eu aussi peu d'argent.
Mmh. Et je voudrais rajouter quand même que si le problème avait été réglé, la question des ZFE et de la bagnole cristalliserait plus. Autant qu'aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'en fait, elle n'a pas été réglée. Et là, moi, je me rends bien compte, quand on échange avec des politiques, cette question-là des gilets jaunes, c'est une ombre qui plane sur eux, parce que tout le monde sait qu'elle n'a pas été réglée.
Et donc, qu'elle couve ?
Qu'elle couve, effectivement.
Vous écoutez Douce France, par Nora Amadi, sur France Culture.
Donc Gaëlle Copé, je suis directrice de l'association Saint-Jean de Péronne. La plateforme mobilité, elle permet d'apporter des actions concrètes en matière de mobilité aux personnes. Alors effectivement, que ce soit des personnes demandeurs d'emploi, des jeunes en perte de mobilité, des auxiliaires de vie, et de répondre à leurs problématiques de mobilité. Alors aujourd'hui, on a un nouveau métier qui existe depuis peu, qui s'appelle conseiller en mobilité. Donc deux conseillers en mobilité qui font un diagnostic avec la personne de leurs problématiques, de leurs besoins aussi en fonction de leur profession, savoir si elles ont besoin de se déplacer, savoir quels moyens de locomotion elles ont besoin. Et en fait, on les accompagne sur un parcours de mobilité. Alors, ça peut être l'obtention du permis, ça peut être un prêt de vélo, un prêt de scooter, un prêt de voiture sans permis. On a une palette large d'actions qui va vraiment du prêt de voiture à l'action code, à la visite d'entreprise, à la rédaction de CV. Et l'objectif, c'est de venir mobile.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage.
Je vous explique, c'est des choses qu'il faut parler, quoi. Parce que je serais pas là, je sais pas où j'en serais.
Alors moi, je m'appelle David Romaric.
Vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Comment vous avez connu la plateforme mobilité de l'association Saint-Jean ?
Je l'ai connu à travers une assistance sociale, quand il y avait commencé à avoir le lien entre les assistantes sociales et Pôle emploi. J'aurais parlé de ma mobilité, ils m'ont envoyé directement ici.
C'était quoi votre problème de mobilité ?
Bah, j'avais pas de permis, bon, pas de voiture, rien du tout. Sans permis, malheureusement, on peut pas travailler où on veut ou aller comme on veut. En sachant que personnellement, j'aurais pu prendre un scooter ou un truc comme ça. Mais le fait est que moi, j'ai peur, en fait, des deux roues. Donc, c'était impossible pour moi d'en conduire. Donc, il me fallait vraiment une voiture pour dire de pouvoir me déplacer hors de Péronne et trouver du boulot.
Donc, vous avez été accompagné ici à la plateforme pour d'abord passer votre code.
J'ai fait tout mon code et mon permis avec Saint-Jean.
Pour financer le permis, comment vous avez fait ?
Alors, j'ai demandé une aide de la région. De mémoire, j'ai eu 1200 euros, j'ai eu le maximum.
Et il y avait un reste à charge de combien pour vous ?
Alors, je vais vous donner une fourchette parce que je ne sais plus le tarif exact, mais c'était entre 500 et 800 euros, je crois.
Sans cette aide, ça aurait été compliqué pour vous de vous inscrire pour le permis ?
J'aurais pas pu acheter la voiture ensuite, ça c'est sûr et certain. Malgré le fait que j'ai fait des petits boulots avant, pour pas dire rester à rien faire, j'aurais pas pu l'acheter.
Ça va vous permettre quoi, cette voiture, aujourd'hui ?
Bah, ça va me permettre déjà de chercher du travail ailleurs. Là maintenant, si je veux, je peux aller dans les villes environnantes, je peux aller travailler dans les usines environnantes, je peux même aller en formation dans les villes comme Saint-Quentin ou Amiens. Enfin, je peux faire ce que je veux maintenant. Ça a tout changé.
Ici, donc ici, on stocke les véhicules de prêt, donc les scooters. Donc là, il nous en reste actuellement deux.
Donc aujourd'hui, on a à peu près 13 véhicules de prêt, une vingtaine de scooters, 6 vélos électriques. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à acquérir une flotte importante et ce qui nous permet de ne jamais refuser un prêt. Une personne vient nous voir, on a toujours une solution. Et puis on s'est engagé il y a quelque temps sur l'achat d'amis, de petites voitures sans permis électrique. Parce qu'il fallait aussi qu'on ait des solutions adaptées aux personnes qui n'avaient pas le permis mais qui ne pouvaient pas, par leur fonction, leur projet professionnel, rouler avec un vélo. Donc on a aujourd'hui 4 amis dans la flotte qui nous permettent de répondre à une demande spécifique et qui sont beaucoup utilisés sur les métiers d'aide à domicile.
Les prêts sont gratuits ?
Alors, on demande juste une participation parce que, voilà, on estime qu'il faut quand même une participation et qui nous permet aussi de faire vivre la plateforme. Mais la participation va nous permettre de financer l'assurance. Donc, on demande effectivement 2 à 3 € par jour pour ce prêt de véhicule.
Et la plateforme mobilité est financée comment ?
On a commencé, elle était uniquement financée par le département. Aujourd'hui, comme je disais, on a signé des conventions avec les communautés de communes, la CPAM, la MSA, les services de l'État, le département. Donc aujourd'hui, on se réjouit de voir que la mobilité est vraiment une action prioritaire pour les financeurs et les partenaires et que tout le monde s'est vraiment posé sur la question de la mobilité, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé. C'était un sacré challenge. Et aujourd'hui, le fait d'être multi-financeur et multimodal, ça nous permet de réussir à équilibrer cette plateforme mobilité.
Voilà, c'était ce reportage à la plateforme mobilité, donc développée par l'association Saint-Jean de Péronne dans la Somme, un reportage de Lise Verbeck. Éric Le Breton, on entend ce bénéficiaire qui nous dit « Oh là là, sans permis, on peut pas travailler où on veut, on peut pas aller comme on veut. Et finalement, maintenant, avec le permis, je peux faire ce que je veux, ça va tout changer. »
Oui, et puis on entend aussi que son permis de conduire lui aura coûté au total 1 700 €. Et c'est peu.
C'est peu, oui. Aujourd'hui, c'est quoi ? On est plutôt autour de 2 000 ?
C'est peu. Mm-hmm. Moi, plus que ça dépend des personnes, mais chez les gens qui s'adressent aux plateformes de mobilité ou aux missions locales, par exemple, il est tout à fait courant de payer au final un permis de conduire 4 000 ou 4 500, voire 5 000 €. Tout simplement parce que le permis de conduire est l'examen le plus scandaleux de France. Et là aussi, il faudrait que les choses bougent. Tous les ans, au mois de juin, nous savons que 90% des gens qui ont présenté le bac l'obtiennent. Et tous les ans, une grosse moitié, allez, 55% des gens qui présentent le permis de conduire l'obtiennent. 55%. Donc le permis est un examen qui est 2 fois plus difficile que le bac, et effectivement.
Mais ensuite, pardon, il faut mais parce que payer, ça. Oui, mais j'entends, mais parce que quoi ? Parce qu'il est discriminant, parce qu'il est difficile. Tout à l'heure, Guillaume Florençon nous parlait du savoir bouger. Ça fait partie de ces examens qui impliquent des savoir-faire, un savoir-être, enfin des compétences en fait qui ne sont pas évidentes pour tous. C'est pour ça ?
Oui, le permis, écoutez, il faut y jeter un œil, c'est très très compliqué, la pédagogie de préparation du permis de conduire est plus que défaillante, et l'examen est très difficile, il est très stressant, les formules, c'est un français très complexe, ce sont des questions extrêmement subtiles, c'est quelque chose qui est vraiment inaccessible, véritablement inaccessible. Alors c'est vrai qu'après, il faut pouvoir payer la voiture, l'assurance, etc. Un rural, un habitant d'un territoire rural, aujourd'hui, consacre en moyenne 21% de son budget mensuel au fonctionnement de la voiture contre 11% pour un habitant de Paris intramuros. Voyez, donc c'est vrai que quand on a le permis de conduire, on est peut-être simplement, on a fait une étape, on a franchi une étape très importante, mais on est au début du chemin vers l'emploi et puis du chemin qui permet de garder l'emploi et puis d'y faire une carrière, etc.
Ouais, mais alors ce qu'on entend aussi, Guillaume Florençon, c'est que on est finalement toujours dans cette idée de rite de passage quand on passe le permis, mais c'est surtout quelque chose qui est classique chez des périurbains, chez des ruraux, parce que la fracture, elle est réelle, cette fracture territoriale. 85% des jeunes de 18-24 ans qui résident en milieu rural ont le permis en 2019, contre 41% dans l'agglomération parisienne. Là aussi, la fracture, elle est là, et ça renvoie à la fois à ce prix prohibitif dont nous parlait Éric Le Breton, ces compétences nécessaires au préalable, cette dimension discriminante, mais quand on n'a pas le choix, en fait, on y va.
Ben oui, c'est clairement ça, effectivement, quand on n'a pas le choix et qu'on a le sentiment d'être enfermé en prison, en zone rurale, on se dit, bon, ben, y a une voie, et en plus, il y a un héritage un peu socioculturel. La voiture, c'est c'est une image de liberté. Ça, c'est, nos parents nous l'ont vendu comme ça. On constate que c'est le cas toujours.
Ah oui, donc, c'est un facteur d'émancipation pour les plus jeunes.
Ah bah, complètement. Mm-hmm. Donc effectivement, il y a cette nécessité, on va dire, philosophique de repenser la mobilité. Je reprends votre exemple. Vous parliez des zones urbaines comme Paris où 40% des jeunes qui ont le permis. C'est bien la preuve que si on organise les choses, on n'est plus dépendant de la voiture. Mmh. Donc en fait, la réponse, on la connaît. Il faut organiser les choses. Et là, aujourd'hui, dans les zones rurales, rien n'est organisé en termes de transport public, en termes d'aménagement du territoire. Quand un commerce ferme dans une zone rurale, il se rapproche nécessairement d'une agglomération plus grande, et du coup il laisse sur place les habitants qui, eux, n'ont plus accès à ce commerce, à cette école, à la rez de gare ou à la station de bus.
Mais par exemple, vous, dans les bénéficiaires que vous accompagnez qui souhaitent passer le permis, qu'est-ce qu'ils vous disent en premier lieu? C'est la difficulté de l'examen? C'est le tarif? Quel est le frein?
Alors déjà, quand ils nous sont envoyés avec cette idée de « je vais passer mon permis, je vais acheter une voiture et je serai libre ». Alors oui, pour certains territoires, oui, pour certaines personnes, mais effectivement, vu la difficulté d'avoir le permis, vu le coût pour avoir le permis, et vu, et ça on n'en a pas parlé, mais c'est la suite, la difficulté d'acheter une voiture, en fait, c'est pour certains une fausse bonne idée. Il y a quand même, dans certaines agglomérations où on est sur des zones périurbaines, des transports en commun qui permettent de faire certaines choses. Mais comme en fait tout le monde est enfermé dans ce prisme voiture, on ne se re-questionne pas. C'est là vraiment où nous, dans les plateformes de mobilité, la question du savoir bouger est importante. C'est de se dire, mais en fait, on vous enverra au permis et à la voiture que si vous n'avez vraiment aucune autre option. C'est ce qui va être le plus dur à avoir et c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Regardons quand même en amont si on ne peut pas faire autre chose.
Mais vous, par exemple, quand vous êtes autour de Tours, oui, forcément, vous êtes un hub, hein, pardon pour cet anglicisme, mais il y a quand même des moyens de transport. Vous faites partie des villes qui ont été sélectionnées et annoncées par le président de la République qui vont bénéficier d'un RER, hein, d'un réseau métropolitain. Ça veut dire que là, il y a encore la possibilité d'une alternative.
Effectivement, il y a des alternatives et on se doit de les regarder et de trouver une solution qui soit pragmatique pour la personne. Moi, je dis souvent, en fait, il faut mettre la personne et sa situation au milieu de l'équation, les moyens de mobilité autour de cette personne-là. Et on va faire de la dentelle en fonction de son âge, en fonction de son profil socio-professionnel, de ses difficultés cognitives, pour essayer de trouver la meilleure solution. Il n'y a pas de solution unique. Et c'est ça la difficulté, je pense, politique. C'est que la politique, ça aime les solutions simples, rapides, efficaces, dans la durée de leur mandat. C'est tout l'inverse de la mobilité solidaire.
Mais justement, Éric Le Breton, quand on entend cette petite dentelle nécessaire que nous décrit Guillaume Florençon à l'instant, la politique, notamment dans la vision un peu jacobine française, pensée souvent par Paris ou à tout le moins par des villes-centres, hein, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit changement de paradigme depuis 2019 et la loi d'orientation des mobilités? On l'entendait, ces plateformes, elles sont particulièrement financées aujourd'hui. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger, non ?
Oui, oui, vous avez raison, tout à fait, et c'est très bien de le dire. Ça bouge, quand même. C'est vrai que les choses restent tendues, difficiles, que la question du modèle économique, plus que des simples financements publics, se pose. Mais aujourd'hui, depuis 2019, il y a beaucoup de communautés de communes, beaucoup de maires qui s'emparent du sujet, et on commence de voir, y compris dans le milieu rural, des choses qui sont très, des fois un petit peu amusantes, mais toujours encourageantes, des maires ruraux qui ouvrent des pistes cyclables sur leur commune, des maires ruraux qui créent des plateaux piétonniers, parce que les habitants du rural et des villages ruraux, eux aussi, ils veulent pouvoir amener à pied tranquillement les enfants à l'école. Et puis on voit du covoiturage, et puis on voit un petit peu de transport à la demande, on voit de la location de vélos, on voit tout un ensemble de choses qui commencent de faire réseau sur des territoires. Alors bien sûr, les métropoles plombe et garde tout et monopolise pour le moment encore, on va dire, 95% des moyens et puis peut-être aussi surtout de l'expertise en mobilité, parce que c'est de ça qu'il faut parler avant que de parler d'argent. Il faut parler d'expertise, il faut parler d'hommes et de femmes qui ont les idées et qui sont capables de les développer. Les métropoles ont tout ça, mais depuis 2019, ça commence de bouger de manière intéressante et encourageante sur des territoires un peu éloignés.
Mais cette expertise, Guillaume Fleurançon, vous l'avez certainement au titre des territoires sur lesquels vous êtes inséré, mais les citoyens, ils ont aussi une expertise d'usage.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi je dis souvent qu'on fait de l'entrepreneuriat, de l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est de réussir à allier plusieurs choses, des compétences de gestion, et je voudrais revenir juste sur la multiplicité des financements. Rendez-vous compte qu'une association comme la nôtre, j'ai sur une vingtaine de salariés, j'en ai quasiment un et demi, dédié à la gestion des subventions. Justement parce qu'on en a plein. Et qu'il faut,
il faut répondre ensuite derrière.
Très concrètement, j'ai 23 lignes de subvention. Il faut qu'on clôture N-1, N, et qu'on prépare N+1. Ça fait plus de 75 lignes de subvention qu'il faut suivre. Est-ce que ça, c'est accepté?
Avec du reporting, j'imagine.
Évidemment. Mm-hmm. Donc il y a effectivement une question d'expertise de ces associations-là. Et je valide tout à fait l'idée que les métropoles captent ces expertises-là. D'ailleurs, moi, je dis souvent qu'on installe, nous, nos plateformes de mobilité proches de ces centres urbains pour pouvoir ensuite aller rayonner dans le monde rural, là où c'est plus compliqué de trouver des financements et de trouver une logique d'ensemble. Notamment quand on parle de modèle économique et qu'il y a des questions de parc et de flotte de véhicules avec des amortissements, etc. Des questions un peu financières, un peu compliquées.
Et c'est pour ça qu'ils sont venus vous chercher dans la finance.
Et comme vous le disiez, il y a aussi la question du coup des usagers. L'innovation sociale, elle n'est qu'à partir du moment où on a repéré un besoin. Le besoin, c'est bien les usagers qui nous le disent. Et c'est en les écoutant et en les associant à la démarche qu'on arrive du coup à construire des réponses adaptées, sinon on est hors champ.
Alors, il serait impossible de comprendre ces enjeux de mobilité sans les relier à la fabrique de nos villes, et on l'a entendu. Bonsoir Antoine Dulster.
Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous revenez aux origines de notre organisation du territoire, une organisation qui nous vient d'outre-Atlantique. Ça ne vous surprendra pas. C'était votre phrase, je crois.
Tout à fait, on peut commencer comme ça, c'est pas grave. Donc les autoroutes, Nora, les autoroutes sans fin qui traversent nos campagnes, les échangeurs et leurs milliers de voitures quotidiennes, les centres commerciaux, les restaurants, les parcs d'attractions, les parkings, tous ces lieux de vie construits au milieu de grands espaces vides se développent donc d'abord aux États-Unis et en particulier à Los Angeles, matrice de la ville du XXe siècle. L'ORTF et ses journalistes en parlaient ainsi en ces termes donc en 1969.
Les gens de Los Angeles aiment à croire qu'ils sont dans la ville de l'avenir. C'est plutôt la ville du présent, l'incarnation de notre temps. Et par conséquent, ce qui mit sans le savoir nos villes, quand leurs banlieues commencent à grandir. Si vous voulez vous représenter ce à quoi ressembleront bientôt non point le cœur, mais la couronne suburbaine de Paris, de Londres ou même de Moscou, quels sont les problèmes qui risquent de s'y poser, ce qui nous attend, ce qui nous menace, il faut aller à Los Angeles.
Et au-delà de Los Angeles, toute la Californie s'organise autour de l'automobile qui devient non pas l'outil, mais le cœur des modes de vie chroniques de cette vie nouvelle, qui est une vie sur la route dans ce reportage de 1971.
Un matin sur deux, j'emmène mon voisin John au travail. Le lendemain, c'est lui qui me transporte. On appelle ça un carpool. On n'est pas les seuls, du reste. D'ailleurs, les femmes font la même chose. Pour aller au stand d'achat, pour amener mes enfants à l'école, c'est une question d'organisation. Mais il y a une chose indiscutable, c'est qu'il faut un minimum de 2 voitures par famille. Évidemment, dans une ville aussi étendue, où les zones résidentielles sont très éloignées des zones d'achat et des zones d'achat des lieux de travail, il est hors de question de s'en tirer avec une seule voiture.
Bon, voilà pour le tableau de la situation des États-Unis. Et vous me direz, et la France dans tout ça? Eh bien, les choses se font en deux temps. Dans la première moitié du XXe siècle, les Français sont d'abord des spectateurs de ce nouveau monde. Un nouveau monde étrange, comme le raconte ici le grand journaliste Joseph Kessel, qui a vécu lui-même à Hollywood en 1936.
Je me promenais seul la nuit à travers Hollywood lorsque, fait incroyable en Amérique, on m'a demandé mes papiers. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit, vous êtes suspect, vous ne circulez pas en auto.
Voilà, incroyable, hein, décalage culturel raconté par le journaliste au micro de Paul Guimard en 1956. Donc, c'est ces années-là, en cette après-guerre, donc, la France se transforme et s'américanise. Les piétons deviennent rares sur les grands axes routiers dans notre pays aussi. La chose est d'ailleurs voulue, prévue, organisée par le pouvoir politique qui accélère la transformation du territoire autour des mobilités automobiles. En 1970, le maire de Lyon et le président Pompidou s'en vantent conjointement, priorité à la voiture.
En peu de temps, la traversée de Lyon pourra se faire sans rencontrer de feu rouge et notre ville sera la seconde cité du monde après Los Angeles à se trouver dans un tel cas.
Je n'ose pas tout à fait vous contredire. Il me semble tout de même que la voie express rive droite sur Paris ne doit pas avoir de feu rouge, mais je ne le jurerai pas.
Une question apparaît néanmoins assez tôt autour de ces nouvelles mobilités. Quelle inclusion dans ces grands axes pour les territoires délaissés? On avait parlé d'un désert français quelques années plus tôt. Une partie de la population, mais aussi les grands corps, les ingénieurs, défendent d'autres solutions de mobilité perçues peut-être comme plus solidaires. Écoutez à ce propos ce qu'en disait justement l'ancien conseiller de François Mitterrand, Régis Debray, un peu plus tard en 2000.
Ici, je prends le train qui est un...
Ouais. Le TGV.
Véhicule qui me convient parce que c'est un véhicule social-démocrate, collectif et jacobin. Voilà.
Le contraire de l'automobile.
L'automobile est plutôt de droite et le train plutôt de gauche.
Voilà, Régis Debray à Lyon en 2000 à l'occasion d'un séminaire de réflexion sur la circulation en voiture. Alors, Éric Le Breton, au-delà peut-être de ce mot, peut-être même de cette plaisanterie de Régis Debray, la voiture est-elle vraiment de droite face à un train qui serait de gauche? Les mobilités sont-elles politiques?
Écoutez, dans ce cas-là, je dirais que la voiture est clairement de gauche, la voiture est clairement populaire, la voiture est clairement du côté des gens qui cherchent du travail et qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent au travail. Non, la voiture, elle devient très clairement de gauche. Les ouvriers ont mis beaucoup de temps à s'emparer de la voiture parce que on l'a oubliée, mais elle coûtait beaucoup, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Encore au début des années 70, en France, la voiture, l'accès à la voiture était un projet de vie pour un ménage ouvrier. Et on l'oublie aussi, mais l'essence coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, si on la rapporte, par exemple, au SMIC ou à la valeur d'une heure de SMIC. Si les gens continuent de se déplacer énormément aujourd'hui, c'est que, évidemment, l'essence coûte cher en valeur faciale, mais ma foi, quand même, ça va. Pour ce que ça permet d'avoir, pour ce que ça permet de faire, eh ben, les gens considèrent quand même que, en quelque sorte, ça vaut le coup. Donc il faut pas la situation de la voiture, elle est, et l'histoire de la voiture et la réalité de la voiture aujourd'hui, c'est évidemment bien plus compliqué que les discours très caricaturaux certains sur la question des hypercentres de métropole qui sont en cours de gentrification.
Il y a des symboles
la vraie voiture.
Il y a des réalités à vous entendre. Donc Éric Le Breton, alors Guillaume Florençon, on tourne toujours autour de ces mêmes questions avec vous, hein, une voiture ou un train qui serait de droite ou de gauche, mais une ville plus solidaire avec des garages solidaires, des covoiturages, des transports en commun. C'est donc une ville qui sait mettre ou remettre la voiture à sa place, en quelque sorte.
Oui, encore une fois, je pense que la question, c'est pas le problème du moyen de mobilité, c'est la question de la personne. Donc remettons les personnes au centre de l'équation et la question de l'organisation des moyens. Et ben, dans un territoire montagneux, on y mettra des voitures parce que c'est plus facile. Dans une grande plaine où il y a une grosse industrie, ben, on y mettra des trains parce que tout le monde arrive à l'heure au travail en même temps et repart en même temps. Faisons des choses intelligentes plutôt que des choses stéréotypées, toujours la même chose, qui, à mon avis, nous emmène droit dans le mur. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que il me semble que la voiture n'est finalement ni de droite ni de gauche, puisque tout le monde s'en empare. Donc, c'est qu'a priori, elle est de tous les
bords. Elle, au moins, elle n'est ni droite ni de gauche. Mais Éric Le Breton, on a entendu aussi dans ce florilège d'extraits entre Los Angeles, San Diego, voilà, cet imaginaire et cette archive magnifique de Joseph Kessel qui dit qu'il a été contrôlé parce qu'il était piéton. On voit bien cet imaginaire qui est extrêmement puissant. temps, en fait, de ces villes étalées, où vous avez la zone commerciale d'un côté, le travail de l'autre, l'espace du logement, cette hyper spécialisation territoriale nous renvoie presque, en fait, aux grandes heures de la datar et de l'aménagement du territoire tel qu'on l'a pensé à cette époque. Mais comment on sort de ça? Faut-il en sortir, premièrement, à l'heure où on nous parle de la ville du quart d'heure, du territoire de la demi-heure? Est-ce qu'il faut en sortir? Est-ce que véritablement on a les moyens d'en sortir?
Oui, mais là encore, je crois que faire référence à la datar, ce n'est pas, c'est très intéressant, mais ce n'est pas décrire la situation d'aujourd'hui. La voiture en milieu rural, dans un ménage classique qui vit dans le milieu rural, c'est bien plus de la dentelle de vie quotidienne pour aller au boulot, pour aller vers les loisirs, pour aller faire les courses. C'est une voiture qui est très intensément socialisée. C'est une voiture qui est fortement appropriée. C'est pas une voiture de la douleur, de la souffrance et de l'angoisse, hein. Pas du tout. Ça, c'est plutôt le cas, bien sûr, chez les personnes qui se présentent dans les gares solidaires. Mais ça reste quand même une minorité, heureusement, de personnes. Pour la voiture de tout le monde, c'est pas du tout le paysage. Et puis on est très loin en France encore d'une circulation uniquement sur des quatre voies. Moi, je me promène. J'étais encore la semaine dernière vers Châteauroux et tout ça. C'est des petites routes qui sont plutôt pas forcément désagréables, etc. Donc la voiture aujourd'hui, elle focalise de manière un ensemble de caricatures qui ne sont pas utiles parce que on ne peut pas poser les bons problèmes avec ces caricatures.
Vous êtes d'accord?
Oui, je pense qu'il y a, une vraie confusion entre la raison technique et la raison objective. On est en train de savoir ce qu'on va faire de la voiture, mais on ne sait même pas pourquoi on se pose cette question-là. À mon avis, on devrait se poser la question de comment on veut organiser notre société et pour faire quoi. Et la question de la voiture sera assez rapidement répondue, à mon avis, dans ce sens-là. Par contre, ça demande d'avoir une vision et du temps long.
Mais vous le disiez tout à l'heure, finalement, vous avez aussi des bénéficiaires qui viennent à vous en disant « il faut que je passe mon permis, il faut que j'achète une voiture, c'est bien, parce que après je serai libre ». Je reprends vos termes de tout à l'heure. Ça veut bien dire que cet imaginaire-là, il est extrêmement puissant.
Ah oui, il est extrêmement ancré. C'est même pas un imaginaire, c'est une réalité. Elle est là. Moi, je la vis tous les jours. Sauf que, est-ce qu'il nous faut... Il y a deux niveaux de réflexion. Il y a l'individu qui se pointe dans un garage solidaire et là, il y a une réponse pragmatique et d'urgence à lui apporter. C'est ce que font nos associations, qui disent en même temps que cette action sociale ne peut pas tenir dans le temps. Ce n'est pas possible de coller des pansements toute la journée. Mmh. Il faut changer les choses pour que justement les garages solidaires puissent disparaître demain, qu'on n'en ait plus besoin. Parce que la voiture ne sera plus le seul et unique moyen de se déplacer, qu'il y aura des alternatives. Je pense que les maires ruraux, on en parlait tout à l'heure, sont une des clés parce que eux peuvent réorganiser aussi un peu leur territoire, rendre accessible le vélo. Il y a quelques centaines d'années, on faisait tout en vélo, parce que tous les commerces étaient en vélo, accessibles en vélo, parce que l'école était accessible en vélo.
Mais voilà, mais est-ce que ça...
Donc c'est une question d'aménagement du territoire.
C'est ça, c'est bien la question, c'est que c'est une question d'aménagement du territoire, et c'est là où, effectivement, j'ai convoqué la mémoire de la datar, hein, même si vous l'avez remise en cause, Eric Le Breton, mais cette idée d'aménagement du territoire qui nécessite, en fait, d'avoir ces aménités, ces équipements, ces infrastructures, de plus aller en zone commerciale à 10, 20, 30 kilomètres pour faire ses courses ou pour trouver un médecin. Cette question-là, en fait, elle est centrale aussi.
Évidemment qu'elle est centrale. Il y a vraiment une question de démobilité qui est évidente. Parce que sinon, on peut aussi prendre tout. Et pour la petite anecdote, ma sœur vit en Californie. J'y suis allé il y a à peine 2 ans. J'ai été très, très étonné de constater comment s'est organisée la mobilité là-bas. Que de la voiture individuelle, des Tesla qui se conduisent même plus, qui se conduisent toutes seules. Et effectivement, là, on voit bien qu'il y a un aménagement du territoire qui a été pensé complètement différemment d'une autre. Et la question des transports en commun aux États-Unis, là j'ai pris en pleine face qu'il n'y avait pas de sujet chez eux. Enfin, je veux dire, on comprend bien qu'il n'y aura jamais de sujet. Les distances sont trop longues, les gens habitent tous à des kilomètres les uns des autres. Ce n'est pas possible. Et effectivement, eux, pour sortir de la voiture, ça va être un vrai sujet. Par contre, est-ce qu'on doit suivre la politique des constructeurs automobiles qui nous en vendent à longueur de journée alors qu'on pourrait peut-être faire autrement? C'est ça, je pense, aussi la vraie question.
Mmh. Eric Le Breton.
Oui, oui, vous avez raison. Et je pense que la mobilité dans le grand périurbain et le rural doit devenir un grand chantier sur lequel beaucoup de gens se mobilisent. Depuis 50 ans, la totalité, c'est-à-dire vraiment 100% des innovations de mobilité sont concentrées sur les cœurs d'agglomération. Mmh. Et 0% très exactement sur le rural et sur le grand périurbain. Il est temps de renverser la vapeur. D'abord, de mon point de vue, en mettant de l'expertise et en donnant de l'expertise aux élus. C'est-à-dire, il y a des formes de travail, il y a des formes d'intelligence collective à inventer. C'est pas forcément très très compliqué. Et puis, comme toujours, se posera la question des moyens.
Dans un moment où on cherche.
Et oui, non, mais c'est cruel. Et donc la question des modèles économiques.
Ouais.
La loi d'orientation des mobilités donne des compétences aux élus, mais ne leur donne pas de fiscalité
moyens.
Propre. Ouais. Donc il faut trouver des sous.
Eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, Éric Le Breton. Merci, Guillaume Florençon, d'avoir été avec nous pour évoquer cette question de la bagnole centrale et qui reviendra dans l'actualité. Ça, j'en suis certaine. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Margot Page qui l'a réalisée. À la technique, c'était Olivier Arnel. On se retrouve la semaine prochaine à 20h sur France Culture, évidemment.